J'ai quitté mon mari, je vous dis pas le scandale. J'ai eu un enfant sans mon mari, je vous dis pas le scandale. Enfin bon, plus j'étais à l'étranger, plus ils étaient contents. Moi, ils ont entendu parler de moi parce que là, franchement, je les ai bousculés un petit peu.
C'est dans les locaux de Ciné Mensuel que j'ai retrouvé Catherine Sinet, qui vient tout juste de lancer Ciné Madame, la version féminine du mensuel satirique créé par Ciné en 2008, juste après son éviction de Charlie Hebdo. Sa rédaction sent la bonne humeur, c'est petit, ça donne sur une cour près de Bastille, on a envie d'y traîner longtemps. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait après l'interview. Catherine Sinet a une vie qui fait envie, qui l'a emmenée en Angleterre comme au Brésil, à Ibiza comme à Rome. Et c'est aussi, vous l'aviez deviné, la femme de feu, Bob Sinet, l'homme politiquement pas correct, qui avec ses dessins a tiré à bout portant sur tout ce qui bougeait jusqu'à sa mort et même après. Au-delà des polémiques, il n'est plus là pour commenter. C'est un plaisir de parler de lui et de leur relation avec Catherine Sinet au milieu de toutes les choses qui ont fait et continuent de faire la vie de Catherine.
J'ai écouté ma copine, merde, comment elle s'appelle ? J'ai une mémoire de poisson.
Attendez, je sais, Mimi Cracra, non ?
Non plus mal.
Ah bah je sais.
Vous allez être étonnée.
Edith Cresson, c'est votre invité.
Pas du tout.
Bah moi je pense allez, à Liliane Rovert.
Yes. Je la connais depuis tellement. Je l'ai vue en manif l'autre jour, elle est arrivée. Voilà. Vraiment marrante.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour. Vous écoutez Vieille branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout de la
je suis encore désirable.
Évidemment, c'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de la planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis.
Ah, vieille branche !
Quelle est leur morning routine ? Que pensent-ils de notre époque ? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées ? Je suis Marie Misset et aujourd'hui, je suis dans les locaux de Ciné Mensuel et Ciné Madame avec Catherine Sinet. Bonjour Catherine Sinet.
Bonjour.
Qu'on a envie de prononcer Ciné. Vous avez une vie qui fait un petit peu rêver, qui sent la liberté à plein nez. Vous avez fondé un peu par hasard un magazine féminin italien depuis Rome, Ragazza Pop. C'était dans les années 60. Un peu par hasard aussi, vous participez pendant une dizaine d'années à l'existence de la première grande émission de débat en France qui avait des audiences incroyables. Ça s'appelait Droit de réponse. C'était présenté par Michel Polac. On connaît tous collectivement une scène, celle de l'empoignade des dessinateurs de Charlie Hebdo avec les affreux de minutes Charlie Hebdo où officiait à l'époque l'amour de votre vie, Bob Sinet, avec qui vous avez créé alors qu'il venait de se faire virer de Charlie par Philippe Val et que vous couliez vous une douce retraite, Ciné Hebdo qui est devenu Ciné Mensuel. Et puis finalement, depuis quelques semaines, vous revenez de là où vous êtes parti, puisqu'à présent patronne de Ciné Mensuel depuis le décès de Ciné en 2016, vous lancez un pendant féminin à Ciné Mensuel, Ciné Madame, où ne participent que des dessinatrices, des chroniqueuses, etc. Heureusement qu'on a un petit peu de temps devant nous pour prétendre faire le tour de votre vie, mais on va commencer par le début. Quand est-ce que vous le situez, le début de votre vie, Catherine Sinet ?
Eh bien, je le situe 2-3 jours après ma naissance, parce que je suis dans l'appartement familial qui est tout petit et il y a une bombe qui explose, on est en 42. Et je m'en souviens pas, mais quelque part, j'aime pas les bombes. J'aime pas la violence, j'aime pas les bombes définitivement. Donc voilà, je le situe là. Et puis c'est vrai que je suis l'enfant de la guerre, donc pendant la guerre, dans un milieu très particulier, très à droite du côté de mon père, résistant, et puis famille juive du côté de ma mère. Donc tout ça est un espèce de micmac infernal dont on ne parle évidemment jamais. Mais il y a des choses qui, quand on est petite fille, sont quand même importante aussi. On connaît pas les bonbons, on connaît pas les gâteaux, on connaît pas tout ça. C'est quand même embêtant, quoi. Donc, on m'appelait Mademoiselle de Gâteau, parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un, même dans les années, parce que ça a duré très longtemps, ces histoires, on n'avait pas de gâteaux, pas de bonbons. Donc, on disait toujours, c'est Mademoiselle de Gâteau. Oui, bien sûr. En 49-50, c'était encore très rare. Voilà, après, je suis partie très vite, moi, parce que je crois que j'étais un petit peu trop dans cette famille. Donc, on m'a collé en Angleterre très jeune, à 12 ans. Et puis après, je suis revenu, puis je suis reparti en Allemagne. Et puis, je me suis marié, puis j'ai vécu un peu en...
On va faire toute la vie d'un coup, comme ça. On est parti.
Voilà, et puis... Et puis, bah, j'ai appris des langues, hein. C'était déjà pas mal. Donc, je préparais vaguement l'école d'interprétariat de Genève. Et puis là, oui, parce que, en fait, la grande histoire de ma vie, c'est comme je suis partie donc seule dans des pensionnats dès 12 ans, je suis tombée dans les bibliothèques. Et dans la première bibliothèque qui me tombait sous la main, quoi, la communale, la bibliothèque. Donc j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Et par exemple, ben moi j'ai lu, je sais pas, Zola et tout ça en anglais, hein, puisque j'étais en Angleterre.
Imagine les internats anglais comme des endroits quand même assez tristous, assez durs.
Très triste. Des murs noirs, très triste. Et enfin oui, donc assez triste. Et puis donc j'ai appris des langues. Et puis après pour échapper à tout ça, je me suis mariée une première fois
avec un américain qui était représentant en encyclopédie,
donc qui dirigeait toutes les encyclopédies en Europe et qui avait tout quitté pour devenir écrivain. Voilà. Et puis
à l'époque, bon, vous avez vécu un petit bout de temps à Ibiza.
Oui, tout à fait. On s'est donc mariés. Ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, on est parti vivre à Ibiza parce qu'il avait découvert qu'il avait été adopté. Comme ça va être une histoire qui va beaucoup se reproduire dans la famille. Comme ça, en séance de psychanalyse, à 30 ans, il a découvert qu'il avait été adopté. Et donc, son psychanalyste allait à Ibiza. Donc, on a été à Ibiza, voilà.
Pour suivre le psychanalyste.
Oui, exactement. Pour pas se perdre. Bon, puis. Voilà.
C'était comme où Ibiza dans les années 60.
C'était incroyable, il n'y avait personne. On était, il y avait un café. Moi, je vivais à côté, ça m'a fait, mais ça c'était un petit peu plus tard, d'un type qui était super célèbre, qui était le faussaire, qui s'appelait Elmire de Horry, qui était le faussaire de je ne sais plus, il s'appelait Fernand. Et quand je suis tombée enceinte, il m'a dit, bon, si tu as une fille, je te donne un Picasso, si tu as une fille, ce sera seulement un Matisse. J'ai dit, non, mais j'ai hérité de beaucoup de tableaux en Italie. Enfin, oui, des trucs, mais jamais vu de drogue, jamais. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, on faisait de la pêche sous-marine, on glandait, on écrit. Enfin, bon, j'avais 18 ans. Hein. Voilà. Mais c'est un mariage qui n'a pas vraiment duré.
Toute jeune, 18 ans, ensuite, ouais, vous arrivez à Rome, vous êtes encore toute jeune.
Je me suis embaladée entre-temps, parce que là, mon premier mari a décidé d'aller se faire construire un bateau en Norvège, dans un endroit perdu, au milieu de la neige. J'ai fait, non. Hein. Et donc, je suis partie, je me suis réinstallée sur Paris, où là, je suis devenue très, très amie avec une fille qui allait épouser Marco Ferreri, vous voyez, le réalisateur. Et puis bon, elle l'a reconnue, ils sont mariés, puis elle a dit, attends, c'est pas possible, faut que tu viennes à Rome. Et tout, j'ai dit, t'es marrante, toi. Et puis, elle a trouvé une histoire pour me faire venir, de me faire tourner comme actrice dans un film. On faisait feu de tout bois, hein, franchement, n'importe quoi. Et puis donc, je suis partie à Rome, et c'est là où j'ai connu le père de ma fille. Mais j'étais toujours mariée, ce qui était un peu une situation compliquée. Et puis j'ai eu ma petite chérie d'amour, ma petite Stéphane Mercurio.
J'ai créé
un journal d'une manière complètement saugrenue, là encore. Mais en fait, moi, quand ça passe, je prends.
J'allais dire, vous attrapez les opportunités, les trains qui passent.
Voilà, je ne réfléchis peut-être pas beaucoup, mais je les attrape. Et donc, j'ai une Française qui est venue me voir, qui m'a dit, parce que bon, je bricolais. Entre-temps, ma fille était née, donc il s'était passé 2-3 ans. je l'ai eu à 20 ans, donc, et 21 ans, et donc,
tu sais où j'en ai dit. Ragazza Pop, donc vous bricoliez des choses.
Et donc, voilà, et puis il y a une Française qui vient voir et qui me dit, écoutez, voilà, je voudrais créer un journal. Je lui dis, ben, c'est une bonne idée. Pourquoi vous me dites ça à moi? Elle me dit, parce que je voudrais que vous en occupiez. Alors, je regarde, je lui dis, mais j'avais fait ça, moi. Elle me dit, oui, je vous fais confiance. Voilà. Et on a fait un journal qui a fait un succès incroyable. Il faut dire que l'époque s'y prêtait. Il n'y avait rien. Il y avait des journaux de mode. On en était encore au patron. Il n'y avait pas de prêt-à-porter. Enfin, vous voyez. On a créé ce journal pour les jeunes, donc. Et
on parlait de quoi dans Ragazza
Pop? On parlait de vider. On parlait de la liberté.
C'était militant un petit peu.
C'était militant. Alors je reprends la formule. C'est-à-dire que ça l'était, mais sans en avoir l'air. Le fond était sérieux et l'esprit était plus léger. Parce qu'on était quand même l'Italie, c'est un pays où le divorce était interdit, très religieux. Donc, parler de pilules, d'avortement, se découvrir la tête pour se promener dans la rue. Parce qu'à l'époque, on se couvrait la tête, hein, on sortait pencheux.
Et vous vous sentiez concerné, vous, avant ça, par la condition féminine? Vous étiez toute jeune, vous aviez déjà pas mal voyagé.
Je savais une chose, c'est que je voulais pas vivre comme on voulait me faire vivre. C'est-à-dire, je voulais pas me marier avec un bon bourgeois, faire plein de gosses. La religion s'était terminée depuis un petit bon moment. J'étais un petit peu rebelle, enfin, on me trouvait insupportable, quoi. Et donc, vous voyez, j'ai quitté mon mari, je vous dis pas le scandale. J'ai eu un enfant sans mon mari, je vous dis pas le scandale. Enfin bon, plus j'étais à l'étranger, plus ils étaient contents. Bon, ils ont entendu parler de moi parce que là, franchement, je l'ai bousculé un petit peu.
Et alors aujourd'hui, le magazine féminin, vous y revenez plus de 50 ans plus tard. Vous lancez donc la version papier féminine, pardon, du ciné mensuel.
Ouais.
Ça s'appelle Ciné Madame. Alors au moment du lancement, vous avez dit qu'on avait encore besoin d'une presse bisexuelle et que vous espériez que dans 100 ans, ce serait plus le cas. Non, vous avez
ce
pas dit ça.
Ce serait bien. Ah,
ce serait vachement bien. mais pourquoi du coup on en a encore besoin aujourd'hui?
On en a besoin parce que au cours des années, alors je voyais la semaine dernière des jeunes féministes très pures et dures qui me disaient que quand même ce que je faisais était pas bien. Je dis enfin quand même il y a eu des progrès, il faut pas exagérer. Il y a eu la pilule, il y a eu l'avortement, il y a eu enfin on a le droit de voyager, on a le droit à l'autorité parentale, on a le droit d'avoir des chèques, on a le droit de faire des tas de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc il y a eu des progrès, mais je trouve que là il y a quand même une petite marche en arrière qui s'opère. Aux États-Unis maintenant ils ont passé ça 5-6 semaines pour l'avortement, ils sont fous, quoi. Et d'expérience, faut veiller au grain parce que c'est jamais acquis. Hein. Et quand on voit les manifs pour tous, tous ces gens-là, bon. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le mouvement des années 70, puisque là, j'étais revenue sur Paris. C'était le féminisme pur et dur, vous voyez, à l'Antoinette Fouque. Où vraiment, voilà quoi, c'était, ça rigolait pas, hein, ça rigolait pas du tout. Et moi, ça me gênait un petit peu parce que bon, on avait encore le droit d'être hétérosexuel si on aimait ça, quoi. Enfin.
Et parce que ça faisait partie des choses que préconisait Antoinette Fouque, ça.
Tout à fait, dans son bel hôtel particulier, là, c'était oui. Et donc, moi, ça me gênait un petit peu. Bon. Et puis, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans les femmes, et j'ai l'impression que ça continue, c'est que les femmes, quand j'étais jeune, par exemple, ma meilleure amie, il n'était même pas question de lui dire qu'on avait un petit copain. On a découvert qu'on avait eu le même petit copain 15 ans après. Parce que on était presque des putes, quoi, d'embrasser des garçons. Vous vous rendez compte?
Vous en parliez même pas entre vous?
Non. Non. Non.
Avec votre meilleure amie?
Non. On parlait de tas de choses, il y avait des allusions, il y avait ci, il y avait ça, mais...
Et du coup, 15 ans après, vous avez découvert que vous aviez le même?
Oui.
Ça a dû bien passer.
Bon, bref, ça, c'était pas terrible. Et donc, j'ai trouvé que les femmes, moi, plus ça va, plus je suis étonnée de la liberté de ton des femmes entre elles, elles se racontent tout, mais même quelquefois, quand même, quoi, parce que... Elles y vont, hein. Et elles y vont, et en fait, ça a l'air comme ça, ça rit beaucoup, mais c'est un vrai soutien, c'est une vraie écoute, c'est une vraie parole, c'est des vraies amitiés. Il y a des belles chippies, les femmes ne sont pas exclusivement intelligentes, belles et tout ce que vous voulez. Il y a des belles idiotes aussi. Et des... bon, enfin...
Vous parlez d'ailleurs du harcèlement dans le,
ouais,
dans le deuxième numéro du Cinéma Dame. Vous parlez du harcèlement scolaire des filles entre elles.
Oui, absolument. Ça, c'est terrible. Quoi. C'est tout ça pour des idioties, mais ça va tellement loin avec les réseaux maintenant que c'est tragique, quoi. Enfin, moi, ça c'est un sujet qui m'a vraiment bouleversé, parce que c'est des gamines, quoi. Elles ont 15-16 ans, hein. C'est vraiment terrible quand ça leur arrive.
Et alors, comme ciné, madame, ça reprend l'esprit de ciné, donc c'est drôle, il y a beaucoup de dessins, etc., c'est satirique. Ça va un petit peu contre cette espèce d'idée reçue qui, heureusement, commence à être battue en brèche, que les femmes sont pas marrantes, sont moins marrantes. Mm-hmm. C'est vrai, elle existe, cette idée reçue.
Oh, et comment ? Et comment ? Et alors, elles l'ont intégrée. Elles ne l'ont pas intégré dans la vie, parce que quand on fait des réunions de rédaction ici, je peux vous dire que c'est des fous rires à jet continu. Mais dans le dessin, par exemple, c'est presque un monde exclusivement masculin. Les filles font de la BD. Vous avez quelques dessinatrices, mais vraiment, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et sinon, elles ne se lancent pas. Elles font de l'illustration, elles font des livres pour enfants, elles font de la BD, elles font ce genre de choses. Par exemple, Florence Sestac, qui a 70 ans cette année, enfin je crois, ou elle vient de les avoir, ou elle va les avoir, enfin peu importe, c'est la première fois qu'on lui demande du dessin de presse. Personne n'avait jamais pensé à lui en demander. Et c'est toute une, c'est tout un travail, hein, parce que en plus un mensuel, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut prévoir que le dessin doit encore être d'actualité dans un mois, donc le temps de fabrication à un mois et demi. Donc on est obligatoirement, ça vaut aussi pour Cité Mensuelle d'ailleurs, parce que c'est exactement le même problème, mais il faut prévoir que donc l'actualité est une actualité large. Et donc, j'en vois, vous voyez, je sais pas, moi, les 35 heures, le climat, le nucléaire, enfin bon, tous ces thèmes, je sais pas, la biodiversité, etc. Et très curieusement, sur le premier numéro, on a quasiment pas reçu de dessin de presse. Et j'ai dit, quand même, excusez-moi, mais on a une opinion sur la société, sur l'Europe, sur, je sais pas, le CAC 40, Balkany, enfin, tout ce que vous voulez. On a une opinion qui est pas forcément la même que celle des hommes, mais peut-être...
Peut-être que si, d'ailleurs, sur certains
peut-être
sujets.
Peut-être que si, ou même plus violente aussi, parfois. Mais donc, je les pousse là à dire, mais attendez, on y va, quoi.
Vous êtes allé chercher des dessinatrices en Italie, en Hongrie, il y a eu quelque part.
En Suisse, en Tunisie, tout à fait, oui. Et c'est compliqué. Donc là on en a encore trouvé une bonne dizaine qui vont travailler, parce que là, on fait un numéro double pour l'été. Et donc, on les fait travailler, mais il faut qu'elles s'approprient ce droit de...
Faut qu'elles osent.
Voilà. Et c'est dommage, parce que en spectacle et tout ça, elles sont formidables. Les Constance, Lucchiata, tout ça, elles sont extraordinaires. Mais le dessin de presse, c'est particulier.
Delfeuille de Thon, en décembre, qu'on a interviewé pour Vieille Branche aussi, il nous disait que si Harakiri s'attaquait à quelqu'un aujourd'hui, ce serait aux féministes.
Qu'est-ce que je te réponds, Delfeuille?
Ce qu'il nous disait, c'est que oui, que Charlie était féministe, etc., qu'il y avait eu plein de nanas qui avaient été féministes, qui étaient passées par Charlie, mais qu'aujourd'hui, les féministes en faisaient trop. En gros, c'est ça qu'il disait.
En vérité, il n'a pas compris ce que je voulais faire. Sur le premier numéro, moi, j'ai senti qu'il n'était pas trop emballé. Et le deuxième numéro, il m'a dit qu'il trouvait ça bien. Donc, voilà. Non, mais, parce que les hommes, souvent, d'ailleurs, c'est assez... Moi, j'ai une psy qui m'a dit, vous auriez dû faire venir un sociologue ici pour voir la création du journal. Parce que c'est pas du tout Delfeuille, mais c'est quelqu'un d'autre qui a 60 ans actuellement. L'article sur les clitoris, il me dit, ça fait 60 ans que je connais. Je dis, oh, bah, toi, t'es trop fort. Voilà. Sur l'andropause, vous voyez, la ménopause des hommes, par exemple, dans le premier numéro, honnêtement, 80% des hommes ne savent pas ce que c'est, quoi. Alors, ils ont des coups de mou de tous les côtés, ils dépriment et tout, mais rien, c'est rien, mec, c'est ta ménopause. Va voir ton médecin, ça va s'arranger, il n'y a aucun problème. Et on a pas mal de lecteurs hommes qui viennent. Et le 1er mai, là, on était à la manif, parce qu'on y va souvent, on avait un stand. Et il y avait des piles de cinéma d'âmes, mais il y avait autant de femmes que d'hommes qui venaient l'acheter. C'était assez sympa, ça, de discuter avec eux. Quoi. Ils étaient quelque part, en tout cas, eux, ils ont compris un petit peu. Mais je pense que Delfeuille, il a un petit peu... Enfin, voilà. Je crois que sur le numéro 2, il l'a bien aimé. Enfin, en tout cas, il me l'a dit. Mais bon, envoyez-moi un mail, même
pas,
que...
Je veux pas vous brouiller, bon, c'était
de toute façon, je veux dire, le mot féministe, c'est ce que je vous disais. Hein. Dans les années 70, c'était un gros mot. Il faut le savoir, on était des harpies, des coupeuses de tout ce que vous voulez. On était vraiment pas sympathiques, quoi. Parce que il faut voir le monde dans lequel on vivait. Hein. C'était un monde d'hommes. Et le changement n'est pas... Alors, je sais bien, il y a des jeunes qui nous disent « Oui, mais maintenant, les jeunes hommes, ils ont beaucoup changé. » Oui. Moi, j'ai une fille, j'ai un petit-fils, j'ai une petite-fille. Je vois, oui, ça change. Ça change jusqu'au premier enfant, en général. Parce que quand on voit les statistiques... Vous savez, il y avait un truc qui s'appelait le Cevipof qui publiait la vie quotidienne des Français. Mmh. Il y avait tout. C'était ma Bible, à l'époque. Et donc, à l'époque, dans les années 80, si vous voulez, les hommes consacraient... je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en gros, 10 minutes à la maison. Quoi. Et ben, le dernier qui est sorti, que j'ai vu, qui doit dater d'il y a 3-4 ans, parce qu'ils ne le font plus tous les ans, on est passé à 30 minutes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec leurs enfants et ils font un peu la cuisine. Mais leur passage, tout ça. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai vu ça. On fera tout. On ira voir nos copines, on sortira chacun de notre côté, on aura notre liberté et tout. Et concrètement, je suis bien obligé de remarquer que c'est les femmes qui prennent les rendez-vous chez les médecins, chez les pédiatres, chez l'oculiste, chez le ci, chez le ça.
Vous avez demandé à Emma, qui a écrit la BD sur la charge mentale, de participer à cinéma.
Non, pas encore. Et donc, voilà, et on est sur la bonne voie, mais comme je vous dis encore...
Et juste une dernière question sur le sujet, parce que vous avez commencé par me dire tout à l'heure, il y a des féministes pures et dures qui sont venues me dire « c'est pas bien ce que tu fais », elles parlaient de quoi exactement ?
Que, bon, par exemple, on devait les interviewer, on devait les... Bon, je ne veux pas parler d'elles parce qu'on est réconciliées, mais avant... Alors, elles n'avaient pas lu le journal et on leur avait raconté le journal, donc... Je n'avais pas écrit dans mon petit édito que j'étais féministe. Bah, ça va sans dire. Hein. Je suis une femme, donc une femme. Enfin, non, il y a Catherine Deneuve qui n'est pas féministe, mais sinon, la plupart des femmes.
Qui créent des magazines satiriques féminins sont féministes.
Voilà, oui, ça va sans dire. Et puis, il y a une qui écrit là, dans le journal, une italienne, qui avait écrit qu'elle n'était pas une féministe stalinienne. Oh là là, stalinienne. Je dis, ben oui, bon, heureusement qu'elle n'est pas stalinienne. Elle me dit, elle aurait dû écrire féministe militante. Je dis, c'est drôle pour un journal satirique militante. Donc, voilà, et donc je me suis fait.
Et donc, elles n'avaient pas lu le magazine?
Non, elles se l'étaient fait lire par une grande féministe française qui leur avait raconté par téléphone.
C'est quand même un petit peu le défaut du siècle de commenter des choses qu'on n'a pas lues.
Exactement.
Pour info, le premier numéro de Ciné Madame est sorti en avril 2019. C'est en 2016 que Catherine Siné s'est lancée dans sa création, il y a donc déjà 3 ans, tout petit peu après la mort de Siné. Il paraît tous les mois, le troisième mercredi de chaque mois, et parmi les contributrices, on compte Isabelle Alonso, Juliette Arnaud, Charline Van Honecker ou encore Florence Sestac, Mad Meg ou Willis from Tunis qui dessine. Le reproche principal qui a été fait à Ciné Madame, c'est de ne pas avoir assumé d'être féministe dans la communication autour du projet. On a fait un saut dans le présent, on va repartir dans le passé, oui. Catherine Siné, parce qu'à l'époque de Ragazza Pop, donc on parlait de ce féminin italien, vous viviez à Rome, et oui. C'est quand vous viviez à Rome que vous avez rencontré Siné, à Paris, mais vous viviez à Rome à l'époque. Cette rencontre, lui, elle est restée profondément gravée dans sa tête, vous un petit peu moins, j'ai l'impression.
Non. Vous voulez dire la première rencontre?
La première rencontre.
La toute première. Il y en a eu deux, en fait. La première rencontre, c'est au Festival de Cannes pour un film de Ferrari où nous sommes invités tous les deux parce que mon mari connaissait Marco et moi, je connaissais Jacqueline. Et donc, nous sommes invités à la grande table, à la grande soirée. On est côte à côte. Et puis là, bon, il est à côté de moi. Moi, je ne vis pas en France. Je ne les connais pas. Et puis...
voilà, quoi, je fais absolument pas attention à lui, et puis c'est tout. Et je m'en vais. Et 2 ans après, donc là, je suis encore à Rome, ou déjà à Milan, je sais pas ce que j'ai déménagé. Je suis à Paris pour le journal, et je sais plus ce que je fais, et bref. Et c'est la soirée où je suis chez ma mère, je suis tranquille et tout, et ben, mon ami me téléphone en me disant, Jacqueline, justement, viens me rejoindre, je suis à tel endroit et tout, je lui dis, non, m'embête. Si, il faut que tu viennes. Je finis par y aller, j'arrive, et là, je vois à 2h du matin une espèce de fou furieux, Nulu Berlu, qui dégringole tout l'escalier, il avait bu un coup de trop, et qui arrive et qui me regarde et il fait, enfin vous. Je fais, ah. Pardon. Et il me dit, bah oui, ça fait 2 ans, voilà, je vous aime, de toute façon, vous êtes la femme de ma vie, ce sera vous, personne d'autre. Et moi, je disais, ouf, ouf, ouf. Et là, et puis je lui dis, en 2 ans, du coup, je n'ai jamais osé. Je dis, enfin, c'était pas compliqué de savoir où j'étais. Il me dit, bah non, j'ai toutes vos adresses, toutes vos téléphones.
Ça, j'ai noté, ça m'a un peu inquiété pour vous. Je me suis dit, il avait toutes vos adresses. Alors déjà, je me suis posé la première question, c'est pourquoi vous avez déménagé autant en 2 ans? Et 2, c'était un peu un stalker quand même, s'il connaissait toutes vos
Jacqueline.
Adresses.
Ah.
Pas besoin des réseaux sociaux,
voilà.
Il y a la Jacqueline.
Voilà. Et donc, ça s'est terminé à 4h. J'ai dit, bon, je vais rentrer. Puis j'avais rendez-vous à 8h30 le lendemain matin, sans je m'en souviens. À 9h pour du boulot, et je lui ai dit, bah écoutez, si vous voulez, on prend un café à 8h30, rue de Rennes. Je fais lui, il était là, rasé, parfumé, prêt, et voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ça, c'était la deuxième vraie rencontre.
Voilà, juste 2 ans après la première, dont vous vous rappelez pas.
Enfin, je sais qu'il était là, mais voilà.
Vous êtes ensuite un peu posé dans les années 70.
Je suis d'abord partie au Brésil.
Ouais, je sais. Ouais. Vous êtes revenue à Paris en 68.
Ouais.
Vous êtes partie faire au Brésil.
Je suis partie parce que sinon, il était marié encore. Il était en train de divorcer. Et puis, bon, enfin, voilà, quoi. Et puis, le hasard de la vie. C'est toujours joli, le hasard. Je déjeune avec un ex. Et qui m'invite à déjeuner, qui me dit, t'ennuies pas, il y a un monsieur brésilien, est-ce qu'il peut dire du jour? Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Puis, j'habite dans un super resto. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et puis bon, on bavarde et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, je pars en Italie demain, je vais chercher une fille qui a créé un journal. Je lui dis, c'est qui? C'était moi. Et donc, on a signé le contrat.
Pour faire la même chose au Brésil?
Ouais, donc je suis partie prendre la direction de 5 journaux féminins là-bas.
Et vous parlez combien de langues, Catherine?
Je parlais pas brésilien à l'époque. Hein. J'ai appris sur le tas, j'en parle 4 ou 5, je sais plus. 4. Enfin, j'ai un peu 5, oublié.
15.
De... Non. Et puis, il m'a pas cru, Bob. Il a dit. Et puis, je suis partie, quoi. Et puis, il est venu. Il est arrivé pour me chercher. Mais moi, en 68, j'étais au Brésil.
Il est venu vous chercher au Brésil.
Ouais. Et moi, j'ai fait 68 au Brésil.
Et le Brésil, à l'époque, c'est la dictature. J'ai un petit peu de...
C'est pas la dictature. La dictature, elle commence en novembre. Je suis partie en septembre, moi. Parce que c'était pas... Bon, enfin, l'Amérique du Sud, tout était un peu compliqué. Mais bon, disons que là, j'ai piqué une rogne, quoi. Je suis partie. Avec ma fille, sous le bras et tout, quoi. Et puis après, ils ont essayé de le garder. Et puis bon, ça a commencé à se sentir vraiment mauvais. Et on est rentré.
Vous rentreriez aujourd'hui si vous étiez au Brésil maintenant avec l'élection de Bolsonaro? Imaginons, vous êtes jeune, vivez au Brésil.
Je ne serais pas au Brésil avec Bolsonaro. Je serais parti. J'ai trop connu, après, on a trop milité avec les Chiliens, les Argentins, etc. C'est bizarre, hein. Ça s'en va et ça revient là-bas.
Il n'y a pas que là-bas.
Oui, comme vous dites.
Donc, en rentrant du Brésil, vous vous posez un petit peu dans les années 70. Alors, j'imagine que c'est se poser de manière Catherine Sinet.
Ouais, je bricole. Et puis, on adopte un petit garçon.
Votre fils.
Donc, voilà, un petit Songwan. Je bricole, je pige, je vais...
Vous traînez beaucoup à Charlie Hebdo.
Ouais, voilà, on habite en dehors de Paris, cool.
Et puis, vous vous mettez donc à participer à cette émission qui va faire date, Droit de réponse, c'était sur TF1, présenté par Michel Polac.
Ouais.
Ça a eu lieu de décembre 80 à septembre 87. C'était le samedi à 20h30. Après, ça a été un peu reculé.
Bah oui, on n'était plus dit. 20h30, 21h30, 22h30.
Un petit peu comme, comme l'émission de Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais. Encore une fois, ça se passe un petit peu par hasard, cette histoire.
Ah, tout à fait. Je vous dis, c'est juste vous l'attraper hein, quand ça vient, c'est comme ça, ça se fait comme ça aussi. En fait, bah oui, Michel appelle à la maison parce que Sidé avait fait les deux. Parce qu'en fait, c'était, il avait commencé en 81, il a fait trois émissions. Et il appelle, et donc il avait déjà quelqu'un, il avait inauguré le dessin en direct. Et donc il voulait parler à Sidé. À l'époque, il n'y avait qu'un seul téléphone, donc je décroche. Oui, ça va, je le connaissais. Bon, ah non, ça va pas, l'émission ne marche pas très bien et tout. Puis j'essaye de monter un truc sur Charlie. Alors il me fait, mais je dis, ben alors, ben, il me dit, j'y arrive pas, je dis, comment ça, j'y arrive pas. Il me dit, pourquoi tu peux faire quelque chose pour moi? Ben, j'écoute, tu passes un coup de fil, oui. Parce que, si à l'époque je faisais de la pub, ou si enfin, je bricolais, j'ai gagné de l'argent quand même. Et, bon. Et ben, j'ai dit, bah oui, bien sûr, bah, tu peux venir demain, bah oui, voilà. Et puis voilà, puis j'y suis allé, puis j'y suis resté jusqu'à la dernière. Voilà, tout simplement, parce que là, ça, j'ai adoré, quoi.
Alors, il y a Serge Danet qui a dit que c'était une émission à la très très moderne, une émission moderne de l'agora démocratique, droit de questionner, droit de répondre, droit reconnu à tous, des stars aux obscurs, des décideurs aux décidés. C'était Internet avant l'heure.
C'était, on sortait aussi d'une époque où tout était sous clé, le RTF, ça rigolait pas. Et c'est vrai que 80, bon, il y a eu les radios libres, etc. Et là, je sais pas ce qu'il leur a appris de prendre Polak qu'ils avaient viré quelques années plus tôt. Mais il y avait une espèce d'euphorie comme ça. Et ils lui ont laissé carte blanche. Et c'est vrai que quand vous avez 10 à 12 millions de téléspectateurs.
C'est incroyable
c'est
aujourd'hui.
Incroyable. Donc. On leur a fait les pires coups, quoi. Ils pouvaient pas nous virer, quoi. Alors nous, en plus, on s'en foutait, quoi. On disait, on fait ça, s'ils sont pas contents, t'es pas grave, on part, on s'en fout, quoi. Et donc, on a fait, alors on faisait aussi bien une littéraire tous les mois, qu'une revue de presse. Et puis, on travaillait beaucoup. C'est-à-dire que c'était des...
Il y avait des grandes enquêtes menées pendant des mois.
Il y avait des enquêtes qui étaient menées pendant des mois par 3-4 journalistes. Vraiment, on mettait le paquet, quoi.
Il y avait des sous aussi, ça veut dire.
Il y avait des sous, mais on les utilisait bien. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça qu'on avait fait une littéraire et une presse, parce que bon là, il y avait moins de choses. Du coup, on mettait le paquet au moins sur 2-3 émissions par mois pour y aller, quoi.
Ça vous fait un peu mal quand on compare ça maintenant en disant que c'était la première des émissions à clash, où on privilégiait le clash.
C'est pas que ça me fait mal, parce que ça me fait rire. Parce qu'en fait, des clashs, il y en a eu 3. Pas 4, 3.
Il y a eu donc cette bagarre incroyable.
Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, Choron qui insulte des étudiants, qui aiment pas Charlie, les mecs de
l'Union. J'ai vu récemment, d'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que franchement, ouais, bon. Oui. Ensuite, il y a eu Colpa Colpoul, pour ne pas le citer, qui envoie un cendrier. Il était un peu déchaîné à travers, et c'est mon fils, il prend dans la main, donc là, le scandale du siècle, etc. Bon, voilà. Et la troisième, c'était des pères en colère qui réclamaient, qui disaient qu'ils n'avaient pas le droit à la garde des enfants, qui nous ont fait une manif. Voilà.
Un sujet qui reste d'actualité, comme beaucoup de sujets.
Oui. Oui.
Pour vous souffler comme ça.
Mais parce qu'ils étaient, il y en avait un qui, enfin bon, ils étaient vraiment, ils étaient, enfin, on voulait bien faire le sujet, mais bon, ils étaient vraiment, bon.
Pas piqué des hannetons.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Il y avait aussi de grands débats qu'on n'imagine pas trop traiter aujourd'hui, tant ça demande d'aller un petit peu dans la complexité, dans la nuance, ce qui n'a pas l'air d'être le projet de la télé en ce moment.
Ça, c'est clair.
Je pense à cette émission sur les grands ensembles, par exemple, que vous êtes les premiers à avoir dit « Faut-il raser les grands ensembles ?»
Tout à fait. On a fait « Faut-il l'ENA, à quoi ça sert ?» On a fait la campagne, Paris, la campagne. On a fait les architectes, on a fait les vins, on a fait les huissiers, on a fait la sidérurgie. En fait, on a fait des sujets du quotidien traités différemment. Mais pour jour, si vous voulez, on travaillait de la manière suivante, on allait voir le problème, ensuite on voyait plein de monde, et ensuite on gardait ceux qui représentaient vraiment le sujet, quoi. Et c'était bétonné, il y avait toutes les preuves, les pièces, on avait même un avocat qui travaillait avec nous tous les mois, donc vous voyez. Et donc là, on a traité les sujets de société qui... Les huissiers, tu vois, oh, samedi soir, les huissiers, oh, bon. Eh ben si. Et moi, je rencontre encore des gens qui, à l'époque, donc c'était il y a longtemps, et qui me disent, jamais je ratais un droit d'éponge. Je me dis, mais t'avais quel âge, toi?
C'était samedi soir.
Oui, tu sais. Et les jeunes sortaient après l'émission. C'était dingue, quand même. C'était dingue.
Vous regardez la télé aujourd'hui?
Oui. Je suis pas. Mais je la regarde par devoir, parce que je dis toujours qu'il faut connaître son ennemi. Et bien le connaître, et savoir ce qu'il dit pour pouvoir le contrer. Et pouvoir corriger, et pouvoir faire de la, ce qu'on appelle maintenant de la désintox. En fait, on faisait de la désintox à l'époque, tout simplement. Hein. Je me souviens un jour, un patron qui était sur le plateau, qui disait, chez moi, il n'y a pas un seul ouvrier qui gagne moins que le SMIG. Ah bon, vous êtes sûr? Ouais.
Vous êtes allé vérifier.
Bah oui, mais il y avait un ouvrier sur le plateau qui a montré sa fiche de paye, qui était la moitié du SMIG. Donc là, évidemment, voilà quoi.
Parce que c'était ça qui était assez fou dans le dispositif de cette émission, pour les jeunes qui nous écoutent.
Mais on a eu des histoires.
Il y avait Michel Pollack avec une table et des invités, et puis des gens qui pouvaient intervenir. Ouais. C'était comme une salle de restaurant de partout dans la salle.
C'était tout petit le lieu, c'était deux fois ça même pas. C'était tout petit, en fait les gens étaient vraiment...
collés.
Voilà. C'était une question de hauteur, en fait, plus que d'emplacement.
Et puis, la rancœur tenace de la famille Bouygues a fini par avoir la peau de l'émission.
Alors ça, c'est une histoire hyper compliquée, parce que Michel était très cultivé, ce qui est le sauver de tout. Mais quelquefois, il avait un petit côté naïf comme ça. Et donc, quand Bouygues rencontrait tout le monde, et vas-y que je... Parce que nous, moi, j'étais payé au SMIG, et Michel, il avait un double SMIG, c'est tout, hein, pendant droit de réponse. Bouygues arrive, vas-y, 100 000
francs. Qui rachète TF1. Voilà.
Tout le monde, Anne Sinclair, machin, tout le monde y passait. Puis d'abord, il va voir Bouygues et il lui dit, bon, moi, vous savez, j'accepte aucune censure, je peux parler du pont de l'île de Ré, tout ça, oui. Et puis, pendant que vous y êtes, Bouygues, montez salaire de 10 fois, enfin, un truc de fou. Michel revient, il fait, oh, il est pas antipathique, ce Bouygues. Ah bon? Il me dit, bah non, il est plutôt... Bon, voilà. Donc, en fait, ça n'a pas duré longtemps, puisque on a fait donc une émission où il y a eu le fameux dessin de Plantu, et non pas de Cabu ou je ne sais pas quoi, qui tapait le CNC, qui à l'époque, et je vais vous expliquer pourquoi. Et nous, dès ce soir-là, on a su que c'était fini. Et la fois d'après, on faisait une autre émission, mais on savait qu'on était morts. Et là, ils ont prétexté un dessin de Vias, tout ça, c'était du pipeau. Oui. En vérité, ce qui s'était passé, et moi j'ai toutes les preuves, j'ai toutes les lettres, j'ai tout. Donc, à l'époque, il avait la chaîne, mais il n'avait pas les antennes relais. Et qui donnait les droits des antennes relais? Le CNC. Et le CNC, ça faisait 6 ans qu'il voulait notre peau. Donc, ils ont fait un petit échange, je te donne tes antennes relais et tu me donnes Pollack. Et puis voilà.
Quand c'était aussi simple que ça. Vincent Bolloré a racheté Canal+, ça vous a rappelé des petits souvenirs du même genre?
Oui, à partir de là, c'était foutu. De toute façon, c'est par hasard. Il y en a une ou deux, mais il n'y a plus d'émission en direct. Ils ont trop peur. Vous vous rendez compte, un cendrier qui volerait, un gros mot, mon Dieu, quelle horreur.
Mais même le président ne parle plus en direct.
C'est dingue, quoi. Et la seule vérité qui tient, c'est à la radio, c'est encore un peu du direct. Vous voyez, des Charline Vandenecker, des gens comme ça qui travaillent, bon, ils sont en direct, vous êtes en direct, enfin, ou pas, mais on peut encore faire des choses. Mais à la télé, c'est... Ils ont peur de leur ombre. Et puis derrière, vous avez les publicitaires. Et puis, si les gros, très riches s'intéressent aux médias, c'est quand même par hasard. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a même plus besoin de faire de la censure. Allons-y pour l'autocensure et c'est bon.
Avant de continuer cette conversation, précisons ce qu'il s'est passé en 2008 quand Ciné a été évincé de Charlie Hebdo. C'était Philippe Val qui était alors à la tête de Charlie. Il y avait pas mal de tensions et c'est dans ces circonstances que Ciné a écrit en juillet 2008 à propos de Jean Sarkozy. Jean Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà conseiller général de l'UMP, est sorti presque sous les applaudissements de son procès en correctionnel pour délit de fuite en scooter. Le parquet a même demandé ça. Relax, il faut dire que le plaignant était arabe. Ce n'est pas tout, il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie, ce petit. C'est donc cet entrefilet, écrit à partir d'une info donnée par Patrick Gobert au journal Libération, qui a démarré ce qu'on a appelé l'affaire Ciné. Catherine Sinet, par ailleurs, soupçonne que le soutien sans faille de Philippe Val à Richard Melka, qui était à la fois l'avocat de Charlie et celui du groupe Clearstream, qui était encore en pleine tourmente, explique en partie le contexte très très tendu qui régnait à Charlie Hebdo en juillet 2008. Donc vous couliez une retraite douce et
j'ai fait d'autres choses entre.
Je sais, entre droit de réponse.
Ah ouais, j'ai coulé. Oui. Là, c'était. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai travaillé autant pour des méchants pareils? Enfin, c'était devenu odieux, quoi.
Et puis arrive la polémique autour de Bob. Polémique de Charlie Hebdo, qui termine donc par son licenciement abusif, hein, qui a été jugé comme tel.
Il a gagné tous les procès, procès de fond, l'appel, et après le licence, il n'a pas été licencié, il a été rupture de contrat abusif. Voilà.
C'est parti d'une blague sur le fils de Sarkozy, sur Jean Sarkozy. Donc, on a accusé Ciné d'antisémitisme.
Voilà.
Et ce que je me suis dit en travaillant sur votre interview, je me suis dit, il a eu la délicatesse, en fait, de ne jamais dire que vous étiez juif, vous, ou juif d'origine.
Oui, mais sa première femme l'était aussi, sa fille aussi. Mais parce que profondément, Bob, c'était quand même un nanar pur et dur. Alors, d'une part, il est méprisé de dire ce genre de choses. Il était dans une colère dingue. Et il disait, mais on va pas utiliser ça, quoi. Merde, je suis pas antisémite. Point. Voilà, c'est tout. Mais comme il était quand même très pro-palestinien, antisémite, voilà.
Vous avez vécu comment la polémique autour du... Comment on se protège dans ces cas-là?
Très, très mal, parce que d'abord, ça leur a pris un certain temps avant de réagir. Hein, puisque la chronique est passée le 2 juillet et c'est Askolovitch qui a lancé la polémique à la radio le 8 juillet. Donc déjà, ouais, ils avaient eu le temps de lire et de réfléchir et de téléphoner, déjà. Deux jours, on était en vacances avec nos petits-enfants, à la campagne, voilà, on était tranquillou. Alors, il y a eu la polémique en somme, mais il y a aussi surtout eu que Charlie, c'était pas si simple que ça. Il y avait vraiment les proval, les antival, c'était très dur. Et nous, on avait un grand ami là-bas qui s'appelait Charb, qui est là, c'est plus là, et qui était vraiment notre pote, quoi. Il s'appelait mon neveu et mon oncle, les deux là. Et donc, à ce moment-là, contrairement à ce qui a été raconté, Bob a fini par dire « Ok, je vais en faire des excuses, enfin des excuses à ma manière. » C'est même Philippe Val qui les a rédigées. Il a dit « Ok, je les signe. » Et le hasard. Maris nous appelle en disant « Mais, vous pouvez pas, il dit, faut que tu reviennes. » Enfin, ils appelaient tous, il faut que tu reviennes, allez, fais tes excuses, alors que c'était décidé, quoi. Et je t'aime, et tu, on peut pas se passer de toi, et patati, patato. On raccroche, Polak appelle, il dit « T'es au courant, Maris vient de m'appeler. » Je dis « Tiens, c'est marrant, nous aussi. » Qu'est-ce qu'il dit? « Oui, mais vous êtes au courant de ce qu'ils sont en train de magouiller ?» Je dis « Bah non, qu'est-ce qui se passe ? » Ils sont en train de magouiller une pétition générale contre Bob, pour le condamner.
Ça, c'est ça vient des copains, des amis,
tout,
les plus
tout
proches.
Le monde a pensé tout le monde a pensé qu'à sa pomme, là. À part Trois, Willem, Tinius, très rare. Et là, à 11h du soir, on a envoyé un mail en disant « On ne signera pas d'excuses. Voilà. »
On imagine.
Et puis sinon, bah, on se protège, qu'on se ronronne, qu'on hurle, en plus tout le monde en parle parce que c'est l'affaire de l'été, il y a pas beaucoup d'actualité, donc ça monte dans tous les sens. C'est là qu'on fait des rencontres extraordinaires parce que en une du monde, vous avez Badinter, Bernard-Henri Lévy, etc., qui signe contre ciné. Et puis vous avez la Claftine, je sais pas si vous voyez qui c'est, Jean-Marie la Claftine, qui écrit chez nous et qui est aussi le grand éditeur de Gallimard et qui d'un coup répond en disant mais vous êtes dingue ou quoi, bien entendu. Tous les avocats qui appellent en disant enfin vous ne serez jamais condamné, quoi, ça ne tient pas la route cette histoire. Et là, il y a une espèce de pétition qui se met en ligne, mais nous, on est là un peu quand même.
On suit derrière,
dans une colère, moi un petit peu abattu, mes petits-enfants essayant de nous faire sourire. Ma fille arrive, comme elle fait des documentaires, elle commence à faire un film. Elle tourne le film et puis voilà, et puis bon bah voilà, et puis là tout dit, enfin journal et tout, et rebelote, mon ami Jacqueline Ferry meurt, je pars en Italie l'enterrer, je rentre le 20 juillet je crois, je sais plus très bien, je rentre 25, et là Bob me dit le 10 septembre, on sort un journal. J'ai dit, hein? Elle dit, ouais, j'y écoute. Elle me dit, non, allez, hop, on sort un journal. Et là, on a eu un nombre de gens, parce que tout le monde a dit, ouais, ils vont prendre tous les virés de Charlie, tous les ringards et tout. Et on a eu un casting, si on peut dire.
Oui, Jacques Rancière parmi les.
Oui. Il y a les grosses têtes et tout. Et il y avait 40 000 signataires de la pétition. Enfin, tout le monde voulait venir travailler. Ça a été un truc incroyable, quoi. Et donc, la primeur qu'on connaissait depuis très longtemps, Gilbert Caron, je te bénis. Profites-en, parce que ça ne m'arrive pas souvent. C'est un imprimeur qui a dit non, mais attends, parce que nous, on n'a pas d'argent. Hein. Et donc, on a dit mais vous lancez un journal, vous êtes dingue, il faut des sous, quoi. Et il a dit non, c'est moi qui paye si ça ne marche pas.
Ciné qui a adoré être patron.
je vous fais cette allusion à une photo, vous. Oui. Patron du MEDEF.
Oui. Ouais. Ouais. Il s'est abonné au MEDEF.
Bah, il a pris sa carte au MEDEF. Ah ben vous l'avez raconté la photo.
Il est devenu patron de presse.
Ben oui.
Il s'est mis tout nu avec sa carte du MEDEF.
Voilà.
Je crois quand même qu'il avait une sorte de slip. Enfin, il avait quand même
un papillon.
Un papillon.
Qui cachait un peu, oui. Ouais, il n'avait pas beaucoup de libide. Il aimait bien. Oui, alors en plus, c'était drôle parce que lui, il s'occupait des dessins, moi, je m'occupais un peu des textes. Et puis finalement, on a fait l'équipe pour la première fois de notre vie, quand même.
C'est ça.
Parce que moi, à droit de réponse, si j'étais vous dire que je ne voulais pas m'occuper des dessinateurs, c'était mes potes, j'avais pas mon mari, mes potes, je ne voulais pas m'engueuler avec eux. Donc là, tout d'un coup, pouf, on a travaillé ensemble. Alors, c'est vraiment une nouvelle vie qui a commencé comme couple.
Oui.
Ouais.
Assez tard, c'est assez génial.
Ouais.
Et ça s'est bien passé?
Je vais pas vous dire qu'il y a eu quelques éclats. Puis en plus, quand on rentrait à la maison, ça pouvait continuer. Mais en gros, oui, ça s'est extraordinairement bien passé parce que tout d'un coup, tu vois, l'autre, il avait toujours des problèmes dans son boulot, etc.
Ça devenait vos problèmes.
Et tout d'un coup, on s'est aperçu que non seulement on s'entendait très très bien, mais qu'en plus, on pensait pareil, quoi. Enfin, voilà, il n'y avait pas de. Donc ça s'est merveilleusement bien passé et il a travaillé jusqu'au jour de sa mort. Il a même fait la une de sa propre mort pour le journal.
Je me rappelle très bien. Quelques jours, quelques mois avant sa mort, en décembre 2015, vous avez aussi écrit une belle déclaration d'amour dans ce mensuel. C'était rare.
Ah non, les déclarations d'amour, c'était pas rare, mais une déclaration comme celle-là publique. Alors, Sidney Lanard n'aurait pas raté un anniversaire, un Noël, une fête, hein, lui donc, ça, il est, voilà. Donc, à Saint-Valentin, j'ai toujours eu mon bouquet de fleurs. Mais là, tout d'un coup, il y avait une dimension qui s'était ajoutée, qui était le côté on bosse ensemble
Fusion, quelque part.
Fusion, ouais, total. Ouais. Oui, je dois dire que c'est assez bizarre. C'est les dernières années de notre vie en commun, là, pendant sa maladie, ça a été tout à fait extraordinaire, quoi. Vraiment.
C'est rare.
Ouais. On était là.
J'imagine
tendresse
aussi.
Tendresse infinie. Ouais, voilà.
Puis j'imagine aussi que les attentats, parce que vous les avez vécus quand même, ouais. Les attentats de Charlie Hebdo.
Ouais, en chambre stérile à l'hôpital, je me souviens.
Ouais, Ciné était à l'hôpital à ce ouais. moment-là. Ouais. Il était déjà très malade. Puis vous sortez, il y avait quand même une rivalité qui restait entre Ciné et ouais. Charlie. Et vous sortez ouais. un magazine où il y a écrit en gros acheter Charlie.
Ouais, ouais. 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 Il méritait quand même. Je veux dire, d'accord, il vous avait enquiquiné, mais enfin quand même, quoi. Non, c'est immonde, parce qu'on tue pas les gens. Enfin, gros chagrin, parce que moi je suis resté lié avec pas mal des épouses de certains dessinateurs. Horrible histoire.
Donc pendant cette période que j'imagine donc assez triste, vous avez jamais cessé de vous occuper du journal. J'imagine aussi que c'était un petit peu votre planche de survie à tous les deux.
Ah oui. Non mais de toute façon, Ciné était un stack à devis du boulot. Hein. Il est à 5h du matin, il était au boulot. C'était un fou furieux. Il adorait travailler. Et donc moi je suis plutôt une bosseuse aussi. Donc à nous deux, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu c'était compliqué, il y avait des choses compliquées à faire, mais l'équipe a été extraordinaire aussi, il faut dire.
Et puis vous avez continué après sa mort, vous lui deviez oui. ou c'était aussi pour vous
Alors, là, je vous avoue que j'ai eu un petit coup de mou là quand même, mais qui n'a pas duré longtemps, puisqu'on a fait une série sur lui la semaine suivante. Enfin non, j'ai eu le coup de mou, j'ai eu après, je suis allé sur les bûchers en Inde, m'immoler symboliquement. Mais en fait, on avait beaucoup parlé et il m'avait demandé de continuer. Et je lui avais dit, écoute, oui, ok, le journal, mais alors les dessinateurs, je ne suis pas dessinatrice, c'est compliqué. Il m'a dit, oh, ça va, hein, tu es avec moi depuis 50 ans, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Si ça ne va pas, tu leur dis merde et puis c'est tout. Et donc, il y a eu un petit moment de bizutage quand même, parce que je ne suis pas dessinatrice, je suis une femme. Bon. Et puis, quand j'ai pris ma grosse voix de mec, que je leur ai dit ce que Bob avait dit.
C'est un peu votre patte aussi, du coup, Ciné Madame. Enfin, je veux dire, c'est un.
Ouais, ça, c'est un truc. Il y a 5-6 ans, je ne sais plus, J.O. avait fait une page qui s'appelait Ciné Madame. Il a dit, pourquoi tu ne lances pas Ciné Madame? Je lui ai dit, écoute, ça va, j'ai assez de boulot comme ça. Et puis finalement, je me suis retrouvée toute seule. J'avais du temps. Hein. Et puis ça m'amuse. Et puis j'ai rencontré cette équipe de nanas formidables. Et puis ça nous amuse. Alors, à Cinémentiel, il y a beaucoup d'hommes.
Oui,
à
Cinémadame.
En dessinatrice, il n'y a que Willis. Et les femmes, elles sont en soute, comme je dis. Et bien, à Cinémadame, c'est le contraire. C'est les hommes en soute et les femmes sur le devant.
Sur la dernière une de Ciné Mensuel que j'ai vue, je la
là,
vois.
Elle est là, ouais,
elle est là, ouais. Voilà, c'est par où l'Europe, avec ouais. une grande croix gammée au milieu, qui signifie très clairement que les extrêmes droites européennes n'en sont bien au-delà du stade de renaissance de ses cendres. Hein, on est arrivé à un niveau au-dessus. C'est quoi aujourd'hui la raison d'être de Ciné Mensuel? Est-ce que c'est si important, par exemple, de choquer dans un monde où, de toute façon, tout le monde s'indigne de tout et passe à la future polémique dans les deux jours qui viennent?
Sur le fond, vous avez raison. Mais c'est la fonction même de la satire et du dessin tel qu'on l'entend, qui est évidemment un dessin un peu noir, un humour noir, etc., d'être un coup de poing dans la gueule. Je veux dire, sinon, c'est faisant, quoi. C'est gnangnan, ça veut rien dire. C'est fait pour... Ça peut faire... Voilà. Mais un bon dessin, quand même, il doit être un peu... il doit faire réfléchir. Il doit même choquer, pourquoi
mettre
pas.
Mettre mal à l'aise, pourquoi
mettre
pas.
Mettre mal à l'aise, et puis on retombe sur les pattes. Et celle-là, elle a un peu choqué, cette une. Mais moi, je l'assume, parce que les temps sont quand même pas rigolos, quoi.
Pas réjouissants.
Non, vraiment pas.
Vous avez peur de ce que vous laissez à vos enfants, à vos petits-enfants?
Il y a des jours où on se dit que on aurait mieux fait de ne pas faire d'enfants, hein. Parce que, mais bon, je ne peux pas m'empêcher d'être une optimiste. Donc, j'ai peur et en même temps, j'espère que, je ne sais pas, ils vont trouver. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Hein, c'est très, très compliqué. J'aimerais bien être. Enfin, je pense que les années jeunesse, les années 70, 60, c'était le top. la pilule, l'avortement, la liberté, la politique, etc. Après, il y a eu le sida, et maintenant, il y a le retour, et puis il y a le retour de ces nazis, de ces fascistes, de ces saloperies, quoi. Quand... Ah.
Ce serait un dommage de rater fasciste et saloperie.
Ouais, voilà, c'est ça n'a pas de nom, ces gens-là. Et en plus, ils avancent masqués. Enfin, ceux qui d'avant...
Il y a ceux qui avancent masqués et ceux qui n'avancent même
voilà,
pas.
Voilà, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et le pire de tous, c'est ceux qui se disent démocrates et qui, en fait, reprennent tout le discours... Plus ça va, plus on va vers l'extrême droite, quoi, soyons clairs. Enfin, les migrants, mais ils s'en foutent, quoi. Vous êtes dans la conférence de presse de Macron, moi, j'ai peut-être entendu beaucoup parler d'écologie. Il paraît qu'on a trop de migrants. Bon, très bien, on a pris 300, c'est trop gentil. C'est aberrant, quoi. Quand on... je me souviens, dernièrement, on a fait, je ne sais plus, dans Cinéma Mensuel, on a fait un reportage sur un couple de personnes âgées qui avaient une petite maison dans leur jardin. Ils ont tout refait pour un appartement, pour une famille de migrants avec leurs enfants. Ça fait 3 ans que c'est fini, ils n'ont pas l'autorisation de la mairie de prendre une famille. C'est dingue, quand même. C'est dingue. Alors, il y a des gens formidables, il y a tout le monde associatif, ça bouge de partout. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a une volonté de changer le monde et tout.
De lien.
Maintenant, qui va gêner peut-être... Allez, rêvons un peu. Le capitalisme va se casser la figure.
Allez, rêvons
Allez,
un peu.
La crise, boum. Bonne petite crise.
Vous avez quasiment répondu à ma question suivante, mais c'est une question qu'on pose à tous nos invités, alors je la pose quand même. Est-ce que c'était mieux avant ? Question particulièrement large à laquelle on peut répondre de toutes les façons.
Bon, c'était mieux avant, ça dépend des moments. Voilà, il y a des choses qui étaient mieux avant, d'autres pas. Non, franchement...
Là, vous disiez tout à l'heure, par exemple...
Pendant la guerre, mieux avant, non. Il y a eu des... Oui, c'était mieux. Ah oui, c'était beaucoup mieux quand j'avais 30 ans, hein, ça c'est sûr.
Peut-être parce que vous aviez 30 ans aussi.
Voilà, ouais. Non, mais je veux dire, 40 ans ou 50 ans. Mais moi, j'ai été longue à apprendre. Mais ce que je trouve formidable avec, à partir d'un certain âge, en vérité, ce que j'adore, c'est que... Parce que dans les deux journaux, mais... On a des journalistes, bien sûr, mais on a aussi des scientifiques, des économistes, des écrivains, des tas de gens qui viennent, qui écrivent dans le journal. Et franchement, les réunions de rédaction ici, c'est riche, on refait le monde, quoi. Et donc, il y a de l'espoir, parce que tous ces gens-là sont des gens qui luttent à TAC, enfin, où vous voulez, quoi, ou dans leurs associations, enfin, peu importe. Il y a un vrai, vrai, vrai mouvement de fond dans ce pays, avec 600 000 associations, je ne sais plus combien, dizaines de millions de gens qui y sont. Ce qui est étonnant, c'est le pouvoir, le peu de gens qui ont tellement de pouvoir. Ça, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue.
Vous n'avez pas commencé cette phrase comme ça. Vous avez commencé cette phrase en disant ce qui est formidable en vieillissant, c'est que...
Oui, pardon. Et donc, oui, pardon. C'est que... Oui, excusez-moi. Oui.
J'ai envie de savoir, raison. Du coup.
Ben, en fait, c'est que j'apprends tous les jours.
On continue, quoi.
Et en vieillissant, on comprend mieux quand même. On est plus... On a accumulé plus de connaissances, évidemment, surtout quand on est un peu autodidacte comme moi. Donc, on apprend des choses, et c'est passionnant. On rencontre des gens, on apprend. On s'enrichit, quoi, quelque part. Alors, d'un côté, on s'écroule, et puis de l'autre côté, on se construit. C'est pas beau, ça, c'est bien fait, quand même, la vie.
J'ai une toute dernière question. Est-ce que vous avez peur de la mort, Catherine Siné ?
J'ai pas du tout envie de souffrir. J'ai une grande maladie, moi, je veux pas envie. Par contre, je suis curieuse.
C'est vrai ?
Bah oui.
C'est là que vous êtes la première à me dire ça.
Bah oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Et puis comme j'ai toujours du sommeil de retard, je vais rattraper. Non, je serais désolée pour mes enfants et mes petits-enfants, mais voilà.
Merci énormément.
Bah, merci à vous.
J'ai passé un très très bon moment.
Merci à vous.
Un immense merci à Catherine Siné pour cette discussion drôle et à bâton rompu, et puis pour le champagne. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, réalisation Aurore Meilleur-Mailleux, mixage Laurie Galligano, coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram à Vieille Branche Podcast.
À bientôt dans Vieille Branche.